2 au 4 décembre, la Bibliothèque publique d'information à Paris reçoit écrivains, poètes et cinéastes pour les 5e rencontres d'encre et d'exil consacrées à l'Argentine. Au programme, débats, rencontres, films et lectures autour de la littérature de l'exil, ainsi que des hommages aux plus grands écrivains argentins disparus. Rencontre d'encre et d'exil, du 2 au 4 décembre à la BPI du Centre Pompidou avec RFI. Plus d'infos sur le site RFI.fr.
Le monde change. Patrick Chompré.
Bonjour, cela s'est passé samedi dernier à la Bibliothèque nationale de France à Paris, la remise du prix La Recherche qui récompense des travaux de scientifiques issus du monde francophone. C'est la 2e édition de ce concours doté de 50 000 euros. 325 candidats originaires de 32 pays y ont participé. Alors nous découvrons ensemble les résultats de ce concours 2005 avec Alix Jiquel qui est présidente du jury et puis deux lauréats de cette année, Jérôme Kasparian qui est porte-parole de l'équipe récompensée pour les travaux sur des filaments blancs pour sonder l'atmosphère et Nicolas Franceschini, porte-parole de l'équipe qui travaille sur les robots fines mouches. On découvre tout cela ensemble aujourd'hui. Le monde change, bonjour. Bonjour à tous les trois. Alors, Alix Jiquel, vous êtes présidente du jury. Bah, tout d'abord, quelles sont vos impressions sur ce concours 2005 et sur l'ensemble des candidatures ?
Alors d'abord, le jury du prix de la recherche est une rencontre, enfin, sélectionne des lauréats qui proviennent d'un grand nombre de candidats. Il y a eu 320 candidats cette année, 197 dossiers, et c'est une rencontre entre des chercheurs et des partenaires officiels qui ont été cette année, Veolia, qui voulait récompenser un prix pour l'environnement, Bouygues Télécom sur la mobilité, la SNCF sur le transport durable et Servier sur la santé humaine. Il y a par ailleurs un prix non thématique qui est décerné par le ministère délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche. Donc c'est d'abord des candidats. C'est une sélection sur 3 critères principaux. Faire de la recherche, que ce soit de la recherche fondamentale ou de la recherche finalisée. Ce que l'on veut, c'est une pluridisciplinarité. Et ça, c'est exemplaire. On a vu des très, très beaux dossiers. Et on veut de la francophonie.
Alors, le jury, comment était-il ce jury? De qui était-il constitué? Enfin, en gros, hein, bien sûr, c'est plutôt l'esprit, en fait, de ce jury.
Le jury est parfaitement pluridisciplinaire. Il y a des médecins, psychiatres, géologues, biologistes. Il y a deux matheux, un politologue, quelqu'un qui est plutôt des sciences pour l'ingénieur, un informaticien, quelqu'un qui travaille sur l'environnement, un archéologue. Et il y a derrière toutes ces personnes, il y a 140 experts dans toutes les disciplines. Et nous envoyons aux experts tous les dossiers. Un dossier est expertisé par 3 personnes. Et grâce aux expertises, nous pouvons nous faire une idée un peu plus étayée que la nôtre propre. Et ensuite, nous sommes en jury et nous discutons.
Alors j'ai vu que 30% de vos candidats étaient des candidates, même chiffre que l'année dernière, je pense, même proportion. Et sinon, d'où venaient ces candidatures, de quelle région du monde?
Alors c'est toute la France, et c'est très agréable d'ailleurs. La sélection des lauréats est bien répartie sur la France, puisque ça va vraiment du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et il y a une chose très intéressante, c'est cette implication de la recherche française dans l'Europe. D'ailleurs, certains lauréats travaillent avec des Allemands, avec des Suisses et aussi avec des Italiens.
Alors, on va découvrir un des projets donc qui a remporté un des prix. Jérôme Kasparian, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes lauréat de la mention environnement avec votre équipe, bien sûr. D'abord, quelques mots sur cette équipe. D'où venez-vous et combien êtes-vous?
Alors, le Terra Mobile est une équipe franco-allemande qui implique 4 laboratoires à Berlin, à Iéna en Allemagne, et puis au laboratoire d'optique appliquée à Palaiseau et au laboratoire de spectrométrie ionique et moléculaire à Lyon. Et puis maintenant aussi le groupe de physique appliquée de l'Université de Genève.
Combien de chercheurs sont impliqués sur ce projet, en gros ?
En tout, une douzaine de chercheurs.
Alors, tout cela s'appelle des filaments blancs pour sonder l'atmosphère, voilà qui paraît bien mystérieux. Quelques explications ?
Alors, on utilise des lasers qui produisent des flashs extrêmement courts, une durée de 100 femtosecondes, c'est-à-dire un dixième de millionième de seconde.
On a du mal à s'imaginer, hein, mais bon.
On a beaucoup de mal à se l'imaginer. Pour donner une image, pendant ce temps-là, la lumière, à 300 000 km par seconde, parcourt l'épaisseur d'un cheveu, quelques dizaines de microns.
D'accord. Donc vous travaillez sur ces lasers qui sont très particuliers.
Ils sont très particuliers parce que au lieu de se propager en ligne droite, comme on a l'habitude avec la lumière, le laser, grâce à sa puissance, va se focaliser tout seul, c'est-à-dire qu'il génère une lentille virtuelle, on peut dire, dans l'air, et que de cette façon, le faisceau va se concentrer sur son axe et se propager avec une très grande intensité sur des distances de dizaines, voire centaines de mètres.
Et ça, c'est une nouveauté, c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire avant ?
C'est relativement une nouveauté. Ce type de laser est apparu à l'occasion d'un saut technologique il y a 20 ans, 1985. Mais c'était des lasers extrêmement sensibles et extrêmement encombrants. Et donc ces lasers étaient limités au laboratoire, à des halls très vastes et très bien contrôlés en température, en vibration, en poussière. Et ce qu'on a fait, c'est que pour la première fois, on a pris un laser de ce type, on l'a miniaturisé, compacifié, et intégré dans un laboratoire mobile pour pouvoir faire des expériences sur le terrain. Depuis la neige en Allemagne jusqu'au sommet du Nouveau-Mexique, on a pu faire des expériences avec ce laser pour identifier les apports de cette nouvelle famille de lasers à impulsion extrêmement brève pour l'environnement.
Alors, le Terra Mobile, donc c'est grand comment à peu près ? Vous pouvez nous en faire une petite description ?
Alors, c'est grand et c'est gros, en tout cas de l'extérieur. Mmh. Il fait 6 mètres de long et il pèse 12 tonnes. Je ne sais pas si on a besoin de rentrer dans le détail des mensurations. Mais par contre, effectivement, c'est grand dehors, mais petit dedans. Parce que une fois rentré toute l'instrumentation, on s'aperçoit que pour y travailler, on a vraiment pas beaucoup de place. Et quand on rentre, on se rend vraiment compte de la difficulté que c'était de faire tout rentrer dans un laboratoire d'optique opérationnel et transportable.
Alors tout cela, pourquoi faire ? C'est ça qui est important finalement maintenant, c'est la destination de ce laser et de ce procédé.
Alors, on travaille essentiellement sur deux applications des lasers ultra-brefs. La première concerne la mesure de pollution par laser. Donc il existe déjà, et depuis aussi longtemps qu'existent des lasers, des mesures de pollution par laser. C'est ce qu'on appelle la technique LIDAR. Mais la technique LIDAR a des limitations, et en particulier, elle ne permet de mesurer qu'un polluant à la fois, et encore à condition de savoir quel polluant on va mesurer.
Et là, vous, quel est votre apport ?
Alors notre apport, c'est que grâce aux filaments autofocalisés, on génère un laser blanc, donc qui va contenir l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel.
D'où le titre, les filaments blancs.
Voilà. Et ce laser blanc va permettre de mesurer simultanément plusieurs polluants, y compris un polluant qu'on n'aura pas attendu à l'avance. Et donc ça, c'est très important. Par exemple, si vous avez un accident chimique et que vous avez une émanation que vous voulez identifier, eh bien, ce type d'appareil permettra à l'avenir de répondre à des questions sur la toxicité du nuage. Et en même temps, en balayant le faisceau laser, l'avantage du LIDAR, c'est de pouvoir réaliser des cartes et donc de voir comment est-ce que, par exemple, la pollution va se disperser.
Jérôme Casparian, qu'est-ce qu'on entend ici ? Les chants du ciel ?
Le chant du ciel, c'est une œuvre de Caril Lambert qui a travaillé d'après des mesures LIDAR qu'on a réalisées cet été, des mesures de la pollution par l'ozone à Paris, donc au mois de juin. Et donc, il a fait correspondre à chaque paramètre météo et à la concentration d'ozone des pictogrammes sonores.
Et ça donne cette musique.
Voilà, ça donne cette musique. Le mixage étant lié à l'évolution des différents paramètres.
Tentative de réunion entre la physique et la musique. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre équipe, fort de ce prix, la recherche ?
Alors notre activité là, cette année et puis les années à venir va se tourner surtout vers la deuxième application du terrain mobile qui est le contrôle de foudre, donc pour aller vers un paratonnerre laser. On utilise là une autre particularité des lasers à impulsion ultra-brève qui est leur capacité à ioniser l'air, c'est-à-dire à le rendre conducteur électrique et d'une certaine manière à produire comme un fil électrique qu'on va pouvoir positionner en balayant le faisceau laser pour réaliser une sorte de court-circuit entre les nuages et le sol, de manière à provoquer, à guider les décharges électriques et à les faire tomber où on veut, de manière à pouvoir étudier la foudre dans des conditions beaucoup plus souples que ce qu'on fait actuellement avec les fusées.
Vous écoutez RFI, Le Monde Change, émission spéciale autour du concours La Recherche 2005 qui récompense donc les travaux des chercheurs francophones. Nicolas Franceschini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc lauréat de la mention mobilité. D'abord un petit mot sur votre équipe.
Oui, notre équipe qui s'appelle équipe de biorobotique et qui relève du laboratoire mouvement et perception du CNRS et de l'Université de la Méditerranée à Marseille, composée actuellement de 9 personnes. Et nous travaillons depuis toujours, en fait, sur les mécanismes visuels, les mécanismes de la vision.
C'est un travail de longue date.
C'est un travail de longue haleine. Et en fait, depuis longtemps, nous nous tournons non pas tellement vers la vision des vertébrés ou des mammifères supérieurs, tels que l'homme ou le singe, mais bien plutôt sur cet organe extraordinaire qu'est l'œil des insectes.
Alors c'est pour ça que votre robot s'appelle, ce sont les robots fines mouches, c'est le projet qui s'intitule comme cela.
C'est exact, ce n'est pas une plaisanterie, il faut prendre fines mouches au sens propre, si l'on peut dire, puisque les robots sont vraiment issus de l'œil de la mouche.
Alors, l'œil de la mouche, la vision de la mouche, qu'a-t-elle de particulier et qu'est-ce que l'on apprend avec vos travaux ?
Mais d'abord, il faut bien comprendre que la mouche est un animal et en ce sens, elle a un cerveau et même un cerveau assez complexe puisqu'il comporte environ 1 million de neurones. Certes, c'est 1 million de fois moins que la quantité de neurones présents dans le cerveau de l'homme, mais c'est déjà une quantité de neurones astronomique, surtout lorsqu'on est là devant elle et qu'on doit analyser les circuits neuroniques qui se trouvent dans cette petite capsule d'environ 1 mm de diamètre.
Alors, parenthèse, comment faites-vous pour analyser donc ces circuits ? Quelles sont vos méthodes ?
Bien, pour analyser ces circuits de neurones, on a des méthodes qui sont assez classiquement utilisées dans le domaine de la neurophysiologie des vertébrés, c'est-à-dire faire de la neuroanatomie, couper l'animal en tranches, une fois que l'animal est fixé dans certaines substances.
Découper les mouches.
On découpe les mouches en tranches pour voir la neuroanatomie, la forme des neurones, et ensuite, sur des animaux tout à fait vivants et intacts, il en a la possibilité, un peu comme le ferait l'acupuncteur, de pénétrer avec des électrodes, mais des électrodes beaucoup plus fines, qui recueillent les signaux en provenance de neurones individuels.
Alors la vision de la mouche est très particulière, vous m'avez dit, donc notamment elle utilise très très peu de pixels.
C'est ça, si on compare l'œil de la mouche à l'œil d'un appareil photo ou d'une caméra, et on parle aujourd'hui, vous le savez, de millions de pixels, donc de mégapixels, un œil de mouche en fait ne comporte que 3000 pixels par œil, et c'est-à-dire en fait 3000 facettes. Et c'est ce qu'il y a d'assez extraordinaire chez un petit animal, un petit robot de ce genre, complètement autonome, c'est de voir ce qu'il est capable de faire, ses prouesses visuomotrices, alors qu'il comporte si peu de pixels. Seul et si peu de neurones dans son cerveau.
Et cependant, la mouche n'a pas la même vision si elle vole ou bien si elle est immobile. Donc vous avez dû l'analyser, observer tout ça en vol.
C'est exact. Il a fallu que nous en arrivions à faire certaines expériences d'enregistrement des signaux électriques en provenance des neurones individuels sur la mouche en vol. Et on a découvert à cet égard un phénomène assez surprenant, a priori. C'est que la rétine de la mouche n'est pas stable et qu'elle se déplace. Elle fait des sortes de micro-saccades très rapides, 5 fois par seconde, 5 à 10 fois par seconde. Et pour comprendre un mécanisme aussi mystérieux et énigmatique que celui-ci, nous n'avons rien trouvé de mieux que d'essayer de le réaliser à bord d'un petit robot aérien qui donc reproduit cette micro-vibration rétinienne.
Donc vos robots en ce moment voient comme la mouche voit, perçoit.
Nous avons l'un de nos robots qui possède cette vibration rétinienne et dont on peut montrer d'ailleurs qu'il améliore considérablement la résolution, c'est-à-dire la finesse de la vision.
Alors, qu'est-ce que ça nous apporte? Et même question, dans quelle éventuelle application pourrait-on en tirer?
Mais il faut bien voir que d'un côté, c'est de la recherche fondamentale, c'est-à-dire à la base, nous essayons de mieux comprendre les mécanismes visuels. Et que vous travailliez sur un chat, un poisson rouge, un singe ou une mouche, en fait, il n'y a pas grande différence. Dans tous les cas, vous avez affaire à des circuits nerveux, vous avez affaire à un cerveau, et nous sommes très loin vraiment, de comprendre ce qui se passe à bord de ces petites créatures en ce qui concerne leur système visuel. Mais évidemment, au fur et à mesure que nous faisons de petites découvertes par-ci par-là, il y a des possibilités d'application. J'en cite une, par exemple, sur laquelle nous travaillons en ce moment. Avec la résolution améliorée de la rétine de la mouche, grâce à cette vibration, nous travaillons actuellement sur des systèmes qui permettraient peut-être à des hélicoptères d'éviter les crashs qui se produisent très souvent dans les câbles à haute tension. Car il y a une possibilité là de détecter des choses très fines à grande distance.
Vous pourriez à terme remplacer les capteurs des avions et des hélicoptères.
Oui, ça c'est une autre application qui est venue de la mouche. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir aujourd'hui compris le pilote automatique qui se cache derrière ce cockpit miniature. C'est un pilote automatique très curieux, car c'est ce que nous avons appelé un régulateur de flux optique. C'est-à-dire ce n'est pas un régulateur de vitesse, comme ceux dont on parle beaucoup aujourd'hui pour les automobiles. Ce n'est pas non plus un régulateur d'altitude, mais c'est un régulateur du rapport entre la vitesse et l'altitude. Et on peut montrer que les neurones détecteurs de mouvement de la mouche sont précisément là pour détecter ce fameux flux optique qui n'est autre que le rapport entre ces deux grandeurs. Et en établissant une régulation sur ce rapport, eh bien, il est possible d'avoir un petit véhicule aérien, de quelque grosseur que ce soit, qui est capable de naviguer dans les airs, d'éviter de se planter sur le terrain, de suivre un terrain, de décoller automatiquement et d'atterrir automatiquement, et même de réagir à un vent de face de manière sensée.
Alors merci beaucoup, Alice Jiquel, il nous reste peu de temps, mais quand même quelques mots sur les trois autres candidats, les trois autres lauréats, pardon, de ce prix 2005, la recherche.
Alors effectivement, il y a eu trois autres prix. Il y a eu le prix Servier, donc en santé humaine, qui porte sur l'étude de la structure et du fonctionnement des acides ribonucléiques impliqués dans les pathologies infectieuses, bactériennes ou virales. En fait, le but du jeu, c'est à terme d'être capable de diagnostiquer des infections très en amont, c'est-à-dire au tout début de l'infection d'une part, et d'autre part d'être capable de les soigner. Donc ce sont des travaux assez fondamentaux, même extrêmement fondamentaux, qui ont des applications potentielles énormes dans le domaine thérapeutique. Le prix transport durable porte sur l'accessibilité et la mobilité des piétons dans l'espace public urbain. Et en fait, le but du jeu, c'est de poser une question avec une nouvelle manière, c'est-à-dire plutôt que de se poser la question des personnes handicapées dans un environnement, c'est plutôt de se poser la question de l'environnement par rapport aux besoins des gens, qu'ils soient handicapés temporairement ou qu'ils soient handicapés de façon permanente. Mm-hmm. On peut penser aux handicapés moteurs, aux non-voyants, mais également aux personnes vieillissantes. Et on peut même penser, quand on extrapole, à des touristes qui sont finalement relativement handicapés. Et donc la question, c'est de quoi ont besoin ces personnes. Et le dernier prix, qui est le prix du ministère de la Recherche, a été attribué à des physiciens qui ont rencontré des médecins. Et en fait, ils ont réussi, ce sont des médecins qui travaillent sur la respiration des mammifères, ils ont réussi à déterminer les processus physiques dominants de la respiration, c'est-à-dire qui sont liés à la dynamique de la diffusion de l'oxygène, et ceci en fonction de l'activité humaine.
Est-ce que cela a été difficile pour le jury de décerner ces prix? Est-ce qu'il y a eu des conflits parfois?
Alors en fait, c'est toujours très difficile d'attribuer des prix parce que il y a des très bons candidats. S'il n'y avait qu'un très bon candidat, il n'y aurait aucune difficulté. Mais dans le cas du dernier jury, en tout cas, je peux témoigner, il y avait d'excellents candidats. Alors nous avons un certain nombre de critères qui nous permettent quand même déjà d'ouvrir un petit peu les choses. Mais à un moment donné, il y a plusieurs candidatures qui pourraient vraiment être prises. Et à ce moment-là, il y a des respects peut-être par rapport à l'historique. Bon, le prix de la recherche n'a que 2 ans cette année, mais et quelquefois, il y a des sensibilités du jury. Ceci est évident. Et il y a eu par moments des discussions assez animées, mais je pense que c'est tout à fait normal et ça représente absolument le milieu scientifique que d'avoir des discussions, et heureusement qu'on en a.
Merci à tous les trois. On ne peut pas aller plus loin aujourd'hui, mais donc tous les renseignements sur ce prix sur le site de la recherche, www.larecherche.fr. Merci, donc bravo aux lauréats. Merci à tous les trois d'être venus nous voir. C'était Le Monde Change, Guillaume Ploquin, Clémentine de Roudil, Tony Fégalé et Patrick Chompré. Toute l'équipe vous dit à demain.
Vous écoutez RFI, il est midi et demi à Paris, 11h30 en temps universel.
Olivier Four.
Bonjour, la chute du gouvernement de Paul Martin au Canada, motion de censure adoptée hier au Parlement. De nouvelles élections sont programmées pour le mois prochain. La pollution du fleuve Amour en Russie. Les autorités envoient des équipes de secours mais interdisent la pêche dans les eaux du fleuve polluées par le benzène qui s'est échappé d'une usine chinoise. La visite en Côte d'Ivoire de la toute nouvelle présidente du Libéria, Hélène Johnson-Sirleaf. Une visite d'amitié, dit-on, à Abidjan. Et puis le football, le Brésilien Ronaldinho consacré hier soir Ballon d'Or 2005. Le gouvernement canadien renversé par une motion de censure déposée par l'opposition. Du coup, des élections devraient être organisées dans les prochaines semaines. Selon les médias canadiens, le nouveau scrutin devrait avoir